Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi en direct de Roland-Garros. Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, comme tous les jours, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi avec à la une le congrès du lobby des armes aux États-Unis. Quelques jours seulement après le massacre d'Uvalde. L'Amérique n'est pas prête à abandonner son droit à porter une arme malgré ce drame, vous verrez. Elisabeth Borne a réuni ses ministres ce matin et elle leur demande d'être efficace avec comme priorité le pouvoir d'achat, la santé et le climat. La communication était très maîtrisée, nous dira Jacques Seret. L'ex-chanteuse Diams a présenté à Cannes hier soir un film sur sa vie. Dans Le Parisien ce matin, elle raconte comment elle s'est convertie à l'islam et pourquoi elle vit désormais aux Émirats Arabes Unis. Roland Garros et la bonne santé des Françaises avec Axel May et Cédric Pioline. Et puis le débat évidemment avec vous, vous appelez le 3921. On va parler des premiers jours, des premiers pas du gouvernement Borne, du niveau d'orthographe également. On va en parler avec vous et avec Jean-Noël Barrot, secrétaire général du Modem et député des Yvelines. Bonjour monsieur le député.
Bonjour.
Et on sera également avec Julien Sanchez, porte-parole du Rassemblement National et maire de Beaucaire. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Et à tout de suite tous les deux. Aux États-Unis, 48 heures après la fusillade dans cette école d'Uvalde au Texas, la grande convention de la NRA débute aujourd'hui. La NRA, c'est ce lobby très puissant, le lobby des armes qui fait la promotion des armes à feu dans tout le pays. Le sénateur du Texas, Ted Cruz, et l'ancien président américain Donald Trump seront présents. Aviva Fried, notre correspondante aux États-Unis, s'y est rendue pour Europe 1.
Des barrières oranges interdisent l'accès du centre des congrès de Houston à toutes les voitures. Sécurité renforcée pour accueillir le congrès annuel de la NRA, le lobby américain des armes. Mark Schilling est venu récupérer son badge d'entrée. Pour lui, la tuerie d'Uvalde ne justifie pas qu'on annule le rassemblement.
C'est triste ce qui est arrivé, mais la NRA fait beaucoup de bonnes choses.
Patrick, lui, est membre de la NRA depuis une quinzaine d'années. À la question pourquoi on ne peut pas un peu contrôler qui a accès aux armes, la réponse est simple.
Regardez ce qui se passe en Ukraine. Comment se défendent les Ukrainiens avec des armes ?
Longue barbe blanche de biker, tatouage sur les biceps, Bruce affiche fièrement un ruban qui l'identifie comme patriote, membre à vie de la NRA. Dans sa poche, une arme à feu, car pour lui la menace vient du sommet de l'État.
Je crois que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que les échelons supérieurs du gouvernement ont été mis en place de manière frauduleuse. C'est comme si les cartels avaient pris possession de notre gouvernement. Les gens doivent avoir les moyens de répondre à ça.
La tuerie d'Uvalde ne gâchera pas la grande fête de la NRA. Le gouverneur du Texas et Donald Trump sont attendus au centre des congrès, où, comble de l'ironie, les armes à feu sont interdites. À Houston, Aviva Fried, Europe 1.
Voilà, et en marge de la tuerie, la polémique enfle aux États-Unis. Les familles se sont plaintes de l'entrée tardive des policiers dans l'école alors que le tireur avait déjà débuté son carnage. L'efficacité de l'action de la police locale est mise en doute. Le gouvernement travaille en ce pont de l'ascension. C'est le message qu'a voulu faire passer la première ministre Elisabeth Borne en convoquant ses ministres à 8h30 à Matignon en ce vendredi de pont de l'ascension. Le gouvernement ne fait pas le pont. Communication très maîtrisée. Jacques Seret en direct avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour Romain.
Ce qui fâche a été soigneusement évité.
Oui, en pleine polémique autour du ministre des Solidarités Damien Abad, Elisabeth Borne verrouille sa communication et les ministres interpellés à la sortie de Matignon ne sont pas plus prolixes, comme Olivier Véran au micro d'Alexis de la Fontaine.
On a travaillé, le gouvernement est au travail.
Où est-ce que vous êtes gêné avec ces questions ?
Mais il n'y a aucune gêne, je suis en train de marcher dans la rue, regardez, on va se faire écraser par une trottinette.
Le gouvernement est au travail, voilà l'unique message. Et après 2 heures de concertation avec l'ensemble de son gouvernement, la première ministre prend la parole, fiche en main, pour détailler le contenu de cette réunion.
J'ai tenu à réunir ce matin mon gouvernement pour un temps d'échange et de travail. Pour nous permettre de fixer un cadre commun à notre action, pour partager la nouvelle méthode voulue par le président de la République, concertation, co-construction et résultat.
Déclaration très cadrée, pas de place à l'approximation et la presse tenue à bonne distance pour éviter toute question embarrassante. Une semaine jour pour jour après la nomination de ce gouvernement, le seul enseignement de cette réunion est que la première ministre a fixé 3 urgences, le pouvoir d'achat, la santé et le climat.
Jacques Seret. Merci beaucoup, Jacques. À quelques jours du premier tour des législatives, la guerre est déclarée entre le RN et Reconquête. Aujourd'hui, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, se déplace dans le Var, dans la circonscription du fondateur de Reconquête, Éric Zemmour. Il va y soutenir le candidat RN, Philippe Lothiot. Victor Chabert, en direct de Sainte-Maxime, avec nous. Bonjour, Victor.
Bonjour, Romain. Bonjour à tous.
C'est une circonscription vraiment sous tension, hein, on peut le dire.
Oui, il y a 577 circonscriptions, mais Jordan Bardella a choisi de venir sur celle-ci ce matin pour soutenir son candidat et qui fait notamment face à Éric Zemmour. Alors pour le président du RN, c'est Éric Zemmour qui est venu jouer les troubles faites dans cette circonscription. Marine Le Pen a fait 57% au second tour de la présidentielle et on sent dans ses mots que les tensions de cette élection présidentielle entre le RN et Reconquête ont laissé des plaies béantes.
C'est un peu contradictoire d'ailleurs de réclamer l'union, de réclamer l'aide du Rassemblement national pour créer une coalition électorale et passer son temps à attaquer Marine Le Pen. Et beaucoup de nos électeurs ne comprennent pas qu'en même temps Éric Zemmour passe son temps à réclamer l'union, l'union des droites, le Rassemblement et en même temps expliquer qu'on est un parti de gauche, qu'on est nul, qu'on est des amateurs. C'est extrêmement contradictoire, donc je le regrette. Je respecte Éric Zemmour, mais je regrette qu'il vienne participer d'une forme de division, parce que la vérité c'est que s'il n'y a pas de candidat Reconquête dans beaucoup de circonscriptions, nos candidats arrivent en tête dès le premier tour.
Alors pour cette électrice locale hésitante entre le RN et Reconquête, ces divisions sont incompréhensibles.
Je suis les deux partis, Zemmour et Le Pen. Je trouve qu'il y a des petits points de divergence, ce ne sont pas des points très très importants. Pourquoi l'union des droites ne se fait pas? J'arrive pas à comprendre ça. Je pense vraiment que c'est un problème d'ego et Marine Le Pen reste bloquée sur ça, à savoir que l'union des droites, elle ne la désire pas, je ne sais pas trop pourquoi.
Alors Jordan Bardella a précisé que si Éric Zemmour était devant le candidat RN le soir du premier tour, le Rassemblement national le soutiendrait. Pour l'instant, selon le sondage local, c'est la députée sortante de la majorité qui arriverait en tête face à Éric Zemmour et le RN serait troisième. La bataille électorale va donc faire rage entre les deux formations de la droite nationale sur cette quatrième circonscription du Var.
Merci beaucoup Victor. Victor Chabert en direct de Sainte-Maxime. Des nouvelles de Diams. Alors que son film Salam a été projeté hier soir au Festival de Cannes, l'ancienne rappeuse Diams s'est confiée dans une interview Fleuve publiée ce matin par nos confrères du Parisien. Mélanie Georgiades, dite Diams, qui vit désormais... Caroline Baudry, bonjour Caroline.
Bonjour.
Qui vit désormais aux Émirats Arabes Unis. Hein.
Oui, avec son mari et ses trois enfants. Une envie d'ailleurs, dit-elle, être une femme voilée en France n'est parfois pas facile. Elle revient longuement avant cela sur son parcours et ses blessures, les tentatives de suicide, la scarification, la solitude après l'extase des concerts et la dépression malgré la richesse et le succès. J'ai touché la folie du doigt, confie l'ancienne rappeuse qui a séjourné en hôpital psychiatrique, sauvée par le Coran, dit-elle, qu'elle raconte avoir ouvert sur une plage de l'île Maurice. Sans cela, je pense que je me serais foutue en l'air, ajoute celle qui était d'abord catholique. Interrogée par nos confrères du Parisien sur la théorie du grand remplacement, thème de campagne d'Éric Zemmour, et sur la polémique du burkini, elle réclame le droit de ne pas en parler. L'ex-star du rap vit toujours sur ses revenus de l'époque, loin, répète-t-elle, de l'Hexagone et de son actualité politique et musicale.
Caroline Baudry, merci Caroline. L'appel d'une professeure, je voulais qu'on en parle dans Europe Midi. Le niveau d'orthographe chez les étudiants français est au plus bas, c'est ce que constate tous les jours Aude Denisot. Elle est professeure de droit à l'Université du Mans. Après plus de 20 ans passés à corriger des copies au lycée et à l'université, elle alerte sur les lacunes en orthographe des élèves français.
Ça fait très longtemps que le problème est signalé, mais ce qui me préoccupe, c'est que c'est de plus en plus grave. Depuis 5-6 ans, la ponctuation n'est plus faite, ou en tout cas pas faite correctement, et le vocabulaire s'est considérablement appauvri. Il y a de plus en plus de fautes, il y a des fautes nouvelles qu'on ne voyait pas autrefois. Et cette année, c'est la première fois que j'ai vu « il y a » avec un accent. C'est très douloureux de voir cette incapacité à s'exprimer par écrit et lui dire ce qu'on a envie de lui dire.
Voilà, Aude Denisot qui sera en direct avec nous à 12h45. Vous pouvez appeler le 3921 pour réagir à ce niveau d'orthographe, niveau de français des élèves qui est à la baisse. Aude Denisot avec Marion Gauthier. Elle devait se dérouler à Moscou, mais en raison de la guerre en Ukraine, la finale de la Ligue des Champions a été délocalisée au Stade de France. Demain à 21h, Liverpool, Real Madrid, plusieurs dizaines de milliers de supporters anglais et espagnols sont attendus dans la capitale. William Molinier avec nous. Bonjour William.
Bonjour Romain.
Les autorités policières ont eu 3 mois seulement pour organiser cet événement contre 18 mois habituellement. Hein.
Oui, et c'est donc un bon test pour la préfecture de police en prévision de la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine et des JO de 2024 selon les services de renseignement de la capitale. Jusqu'à 70 000 Britanniques sans billets sont attendus ce week-end. À cela s'ajoutent 22 000 supporters anglais qui, eux, seront dans le stade, place Beauvau. On a en tête les images de violence et d'affrontement des supporters anglais lors de l'Euro 2016 à Marseille. L'enjeu demain à Paris, c'est d'éviter les croisements de foule qui pourraient dégénérer. 2 fan zones seront donc dressées à bonne distance. Celle des Espagnols se trouve à Saint-Denis, pas loin du Stade de France. Pour les Anglais, ce sera Cour de Vincennes dans le 12e arrondissement parisien. 44 000 supporters pourraient s'y rendre. Près de 7 000 policiers et gendarmes sont mobilisés spécifiquement pour encadrer la rencontre, mais aussi prévenir les risques de débordement dans d'autres quartiers de la capitale. D'ailleurs, selon nos informations, tous les effectifs en poste la nuit à Paris, en petite couronne, ont été rappelés pour travailler ce soir et demain soir. La vente et la consommation d'alcool seront interdites dans les bars autour du Stade de France. À noter que le secteur des Champs-Élysées est interdit aux supporters espagnols et anglais jusqu'à dimanche 18h.
William Molinier, merci beaucoup William. Voilà, la finale devait se dérouler, non pas à Moscou, hein, mais à Saint-Pétersbourg. Elle a finalement lieu à Paris. Merci beaucoup William. Les matchs de Roland-Garros à présent.
Roland-Garros 2022.
L'événement tennis est sur Europe 1.
Les matchs de Roland-Garros, et on commence avec vous Axel May. Vous vous trouvez sur le court Philippe Châtrier, là où va jouer cet après-midi la Française Diane Paris.
Oui, Diane Paris qui sera opposée à l'américaine Sloane Stephens, 29 ans, 64e mondiale. L'américaine Diane Paris, 19 ans, 97e mondiale. C'est la première fois qu'elle atteint le troisième tour de Roland-Garros et elle a sans doute une bonne carte à jouer pour poursuivre l'aventure ici à Roland-Garros. Ce sera donc le troisième match. Auparavant, on a en ce moment Belinda Bencic, Suissesse, 14e mondiale, face à Leila Fernandez, 19 ans, finaliste du dernier US Open. 17e mondial, le match vient de débuter sur le court central. Ensuite, il y aura Novak Djokovic, le tenant du titre, face à Aliash Bedene, le Slovène, 195e mondial. Et donc, Stephens, Paris, sur ce court central. Allez, sans doute un peu après l'heure du goûter.
Merci beaucoup Axel. Cédric Pioline, bonjour.
Bonjour Romain.
Bonjour Cédric, depuis le studio Europe 1, on se trouve sur l'allée centrale, juste derrière ce cours Philippe Châtrier, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Hein. Cédric, hier c'était un festival pour les Français avec 4 qualifiés pour le troisième tour.
Ça fait du bien, parce qu'on était un petit peu inquiets évidemment avant cette édition de Roland-Garros, et puis finalement... Les bonnes surprises se sont enchaînées, pas forcément des joueurs auxquels on avait pensé avant le tournoi, que ce soit Gilles Simon, que ce soit Jean-Jean, ils nous ont fait plaisir vraiment, et de voir ces Français qui avancent et qui nous font espérer avec eux, ça nous régale.
Alors, on parlait juste avant avec Axel de la Française Diane Paris, une future grande. Elle a la capacité pour se qualifier au prochain tour.
Ça va être difficile. Elle a vraiment une adversaire qui joue extrêmement bien, qui joue vite, qui a beaucoup d'expérience, qui est une ancienne top 10. Donc, ça va être quand même compliqué. Mais elle a tout ce qu'il faut dans la raquette. C'est une jeune fille qui a beaucoup de potentiel. 19 ans, qui a sorti, la tenante du titre au premier tour. Et donc, qui continue à avancer. Mais en même temps, je dirais qu'elle découvre. Mais il faut qu'elle profite de Roland-Garros, du public. Et puis... de l'insouciance de ses 19 ans.
Qu'elle profite, c'est le conseil de Cédric Pioline. Merci Cédric.
Merci
on
à vous.
On vous retrouve voilà, tous les jours, Cédric Pioline, et puis il y a Service Pioline le soir sur Europe 1. Merci Cédric. C'était hier soir à Londres, la jeunesse éternelle grâce au numérique ABBA qui a lancé hier une série de concerts d'avatars numériques Dernier Cri qui vont prendre le relais des 4 septuagénaires désormais du groupe culte suédois. Cela faisait 40 ans que le groupe ABBA n'avait pas donné un concert. Anaïs Cordoba avec nous à Londres. Le show à Londres a été exceptionnel.
Oui, un concert visuellement révolutionnaire. Hein. Grâce à une technologie de pointe, le public a vu les quatre membres du groupe sur scène, tels qu'ils étaient dans les années 70. Alors, ce ne sont pas des hologrammes en 3D, leur image est en fait projetée sur un écran géant, mais grâce à un jeu de lumière, on a l'impression que le groupe est sur scène, en chair et en os. Un résultat bluffant qui doit être vu pour être cru, a salué la critique. Le public a eu aussi la joie de voir les quatre membres du groupe en vrai. Agnetha, Frida, Benny et Björn étaient présents durant toute la performance. Eux aussi, des étoiles dans les yeux. Écoutez Agnetha.
Ce n'était pas une décision difficile à prendre. Car la musique fait partie de nous. On l'adore et on a adoré travailler en studio. Voilà pourquoi nous sommes de retour.
Et bonne nouvelle, si le concert est un succès à Londres, une tournée mondiale pourrait suivre.
Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. Merci beaucoup Anaïs, la météo à présent. Avec vous Valérie Darmon, bonjour Valérie.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Les éclaircies reviennent cet après-midi presque partout, c'est promis.
Et oui, c'est promis, c'est le cas déjà après une matinée un petit peu nuageuse sur l'extrême nord de la Manche jusqu'à la frontière belge. Et ce soleil qui parviendra à percer en région parisienne aussi, mais seulement en soirée. Du coup, du sud de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'à la Lorraine, le nord de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de l'Alsace. Le ciel va rester majoritairement nuageux jusqu'aux premières heures de la soirée. Donc temps nuageux mais sec, hein. Dans le sud-ouest, le soleil prend de plus en plus l'avantage sur les nuages. Du Languedoc-Roussillon aux Alpes, malgré un ciel parfois voilé, notamment sur PACA et la Corse, le temps est bien ensoleillé, même si les nuages se développent, finissant par donner, comme ces derniers jours, des averses et localement un orage sur les Alpes du Sud. Côté température, elles sont en hausse. Elles affichent 16 à 21 degrés de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais et près des frontières du Nord. 21 à 26 sur le reste de la France, notamment à Paris. 27 à 30 de l'est de l'Occitanie aux Alpes. Et jusqu'à 33 sur les régions méditerranéennes.
Valérie Darmon, merci beaucoup Valérie. Il est midi 16, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Beaucoup de sujets, on va parler des premiers pas du gouvernement Borne qui a défini trois priorités, pouvoir d'achat, santé, écologie. Est-ce que ce sont les vraies priorités du moment? Vous appelez le 3921, on va en parler. On va parler également du burkini et du niveau des Français en orthographe qui baisse. On en parle avec vous et avec Jean-Noël Barrot qui est secrétaire général du Modem, député des Yvelines, et avec Julien Sanchez, porte-parole du RN, maire de Beaucaire. A tout de suite.